Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Vous écoutez De vous les copains, 2 heures d'allégresse certes, mais avant tout d'informations portées par des journalistes de haut vol. Des grands reporters comme Eva Rock, qui n'hésitent pas à risquer leur vie sur le terrain on the field. Désert afghan, bas-fond de Mossoul, non, piscine municipale.
J'ai failli mourir.
Arrête.
Alors,
j'ai eu une crampe.
Une crampe, ah ça c'est terrible.
Et j'ai mal ce matin encore.
Bon, ça c'était là où t'as failli mourir.
Heureusement, debout les copains, ce n'est pas que les tribulations aquatiques des Varocs qui, information prise, n'étaient même pas dans une piscine mais dans un pédiluve. C'est aussi le courage éditorial de Fabrice d'Almeida. Le monsieur histoire d'Europe 1 qui ce matin n'aura pas à puiser énormément dans son courage puisqu'il nous racontera l'histoire du changement d'heure. Ça va être super.
Yeah !
N'en rajoutez pas non plus Céline.
Merci d'écouter Europe 1 en ce vendredi 29 mars. Et très bon réveil, il est 6h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce vendredi 29 mars. Bonjour Céline Kallmann.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Céline.
Preuve accablante contre Jean-Marc Reiser, principal suspect dans la disparition d'une étudiante à Strasbourg. Du sang a été retrouvé sur une scie lui appartenant. Le tribunal de Nanterre doit se prononcer aujourd'hui concernant le papetier Arjo Wiggins qui risque la liquidation judiciaire. Et puis quelle piste pour le remaniement à venir? 3 ministres doivent être remplacés d'ici lundi, jour du prochain conseil. Jean-Marc Reiser n'a rien lâché devant la juge d'instruction chargée de l'enquête sur la disparition de Sophie Le Tan, cette étudiante strasbourgeoise qui s'est volatilisée en septembre dernier alors qu'elle était partie visiter un appartement près de Strasbourg. Le principal suspect nie son implication, mais l'ADN de la jeune femme a été retrouvé sur une scie lui appartenant. Jean-Jacques Herry.
La découverte de l'ADN de Sophie Le Tan sur le manche de cette scie tachée de sang semble accuser encore un peu plus Jean-Marc Reiser. En effet, ce n'est pas la première fois que l'ADN de la jeune fille est retrouvé au domicile de l'unique suspect. Dans la salle de bain, déjà, les enquêteurs avaient décelé la présence d'importantes taches de sang méthodiquement nettoyées pour les faire disparaître. Après analyse, l'ADN de l'étudiante avait été identifié. Puis il y a aussi ce pantalon et ses chaussures également maculées de sang, découverts dans la cave et dans la voiture du suspect. Autant d'indices matériels qui vont tous dans le même sens, selon maître Gérard Welzer, avocat des proches de Sophie Le Tan.
Cette information est confirmée. C'est un élément accablant de plus, ça ne fait que confirmer ce que nous pensions, c'est-à-dire que M. Reiser est coupable sans nul doute de la disparition de Sophie.
Pour le moment, pourtant, toujours aucun aveu de la part de Jean-Marc Reiser. À nouveau entendu hier, pendant 8 heures, il a continué de clamer son innocence, mais en se montrant confus, incapable notamment de pouvoir expliquer la présence du sang de Sophie Le Tan sur cette scie retrouvée dans sa cave.
Jean-Jacques Herry, l'acquittement requis faute de preuves à l'encontre de Laurent Dejean, jugé pour le meurtre de Patricia Bouchon. C'était en 2011 à Boulogne, près de Toulouse. L'humoriste Yacine Bellatar, devenu aussi voix des banlieues auprès de l'Élysée, a été mis en examen pour menace de mort et harcèlement moral sur des personnes du monde du spectacle. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. À Besançon, une enquête a été ouverte après l'agression par un élève du proviseur adjoint du lycée Pergaud. Le garçon avait été convoqué avec sa mère pour aborder son absentéisme récurrent. L'élève de seconde, très énervé, a donné un coup de pied dans le dos du proviseur adjoint qui a chuté dans les escaliers. Les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait. Une cellule psychologique a été mise en place.
Les salariés d'Arjo Wiggins ne se font plus d'illusions.
Oui, le sort de la papeterie semble scellé. Il va être très difficile d'éviter la liquidation judiciaire sur le site de Bessé-sur-Braye dans la Sarthe. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre sa décision aujourd'hui. 2 autres usines sont concernées, à Château-Thierry et à Bourret près du Mans. Écoutez Thomas Hollande, l'avocat des salariés qui affirme que l'État n'a rien fait.
Effectivement, les chances sont minces dans la mesure où l'État a encore aujourd'hui maintenu sa position de refuser un financement d'un projet qui est pourtant viable et qui permettrait de garantir la pérennité de plus de 400 emplois. Non, l'État n'a rien fait. Ceux qui se sont démenés, c'est les salariés, les représentants du personnel, les directeurs des sites et les collectivités locales, les élus locaux. Il faut bien comprendre que c'est la Banque publique d'investissement qui est l'actionnaire principal du groupe Sequana, qui est la maison mère des sociétés Arjo Wiggins qui sont concernées par la procédure de redressement judiciaire. Et c'est donc les dirigeants de Sequana qui ont décidé, avec la Banque publique d'investissement, d'abandonner Arjo Wiggins. Avec les emplois indirects, ça fait près de 1500 emplois qui vont être détruits si jamais on ne permet pas aux projets alternatifs d'aboutir.
Maître Thomas Hollande avec Anne-Laure Jumet. Benjamin Griveaux, qui a démissionné de son poste de porte-parole du gouvernement, a officialisé hier soir sa candidature à l'investiture La République En Marche pour les municipales à Paris en 2020. Qui, pour le remplacer, lui et les autres ministres démissionnaires, Mounir Majoubi et Nathalie Loiseau? Élément de réponse avec Aurélie Herbemont.
À l'Élysée et à Matignon, les conseillers s'en amusent. Ils aiment prendre leur temps. Les nominations ne devraient pas avoir lieu en début de matinée car il faut laisser au Premier ministre le temps d'atterrir de son déplacement au Qatar. Ensuite, Emmanuel Macron et Édouard Philippe devront finaliser le casting en faisant attention à la parité. Pour remplacer Nathalie Loiseau, Clément Beaune, conseiller Europe à l'Élysée, fait figure de favori. Pour le numérique, le nom de la députée Paula Forteza circule, à moins qu'un ou une spécialiste de la société civile ne fasse son entrée. Il faut aussi un porte-parole, pourquoi pas un membre du gouvernement actuel, le MoDem Marc Fesneau, le jeune secrétaire d'État Gabriel Attal ou Emmanuel Wargon, qui a piloté le grand débat. Mais certains plaident pour l'arrivée de la porte-parole du parti, Aurore Berger. C'est une guerrière, vante un ministre, toujours là dans les médias et le président le sait. Comme à chaque fois, les pressentis attendent. L'un d'eux confie, on verra bien les arbitrages des autorités.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. 7 députés Les Républicains ont décidé de boycotter aujourd'hui le déjeuner organisé par Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France dans le cadre du grand débat. Ils dénoncent un semblant de dialogue. En Grande-Bretagne, c'est reparti. Les députés vont s'exprimer une troisième fois sur l'accord de sortie de l'Union Européenne. Il a déjà été rejeté 2 fois. L'adoption du texte proposé par Theresa May pourrait permettre à Londres de reporter la date du Brexit au 22 mai. La police brésilienne a arrêté 16 personnes, dont 10 Brésiliens, 3 Français et 3 Belges. Ils s'apprêtaient à partir en croisière avec 360 kilos de cocaïne dans leur bagage. Tous allaient embarquer dans un paquebot
juste une croisière.
Oui, tous allaient embarquer dans un paquebot à destination de l'Europe avec plusieurs escales prévues dans d'autres villes du Brésil.
Ah voilà. C'était il y a 30 ans, Céline, la pyramide du Louvre était inaugurée.
Et oui, et pour l'occasion, l'artiste JR a fait appel à 400 bénévoles pour installer un collage géant qui sera dévoilé cet après-midi cours Napoléon. Le bâtiment de verre a permis d'attirer des millions et des millions de touristes. Une véritable œuvre d'art, selon Jean-Luc Martinez, le patron du Louvre.
Le Louvre était une forteresse, donc bâtie comme une forteresse. On passait le long du Louvre. On ne traversait pas ce domaine. Et la pyramide a remis la place au centre finalement, des promenades, du promeneur, des Parisiens, des visiteurs. Le deuxième élément, c'est que le bâtiment, enfin ce monument est transparent. Et il a donné de la transparence au musée. C'est-à-dire que même quand on passe, on voit les visiteurs sous la pyramide. Voilà. Et tout ça, ça a donné du musée une idée complètement différente. Non pas le bâtiment officiel fermé sur lui-même, mais un lieu de vie. C'est plus qu'une icône, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est devenu une œuvre d'art. Au même titre que la Joconde, les visiteurs, hein, français ou étrangers, veulent venir et passer par la pyramide, à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur.
Le patron du Louvre avec Diane Chénoud, vous êtes bien dissipé, Mathieu.
Effectivement, mais je vous expliquerai pourquoi plus tard.
C'était une dernière info, non?
Ah oui, s'il vous plaît.
Un dessin de Picasso intitulé « Joueuse de flûte et nu couchée » datant de 1932 a été vendu hier aux enchères pour 286 000 euros chez Christie's à Paris. Un tableau adjugé à un acheteur européen.
280. Ah mais c'est pas un tableau, c'est un dessin.
Un dessin, c'est ce
c'est
que j'ai dit.
C'est pour ça que c'est un petit peu moins cher que les tableaux de Picasso qui dépassent les plusieurs millions d'euros. Merci, c'était le journal de Céline Kallmann. Et Céline, le moment est venu de mettre les pendules à l'heure. S'il vous arrive d'être choqué par les montages sonores que je vous inflige souvent en sortie de votre journal et qui évoquent notre soi-disant relation extra-professionnelle, c'est la faute d'un homme à l'esprit malade qui travaille avec moi et qui me propose ces inconvenants montages. C'est pourquoi je précise, avant la diffusion du prochain Nous mettant en scène, je vous préviens, dans
tout
une suite de
l'Ibis
Budget de la Porte de Champéret, que si votre mari ressent un jour le besoin de casser la gueule à quelqu'un, qu'il s'adresse à Sébastien Bordenave, 2 rue des Cévennes, 75-015 Paris.
Je suis trop longue, je suis trop courte.
T'es bien meilleure que dans mon rêve en fait.
Je peux m'arrêter là. Non mais dis-moi.
Oh Vincent Herouette, c'est bon de voir Vincent Herouette dès le matin comme ça.
Je m'arrête là.
Sébastien Bordenave avec un B comme bon goût.
Europe 1. 5h-7h, Mathieu Noël.
À suivre, c'est historique, le fact-checking par l'histoire. Et alors qu'on s'apprête à passer à l'heure d'été dimanche, Fabrice Almeida revient sur l'histoire mouvementée du changement d'heure.
Bon réveil à tous, il est 6h08. Il est 6h09, Mathieu Noël.
L'heure d'un point météo avec vous, Céline Dacosta, vous cherchez votre mais je sais que c'est une belle journée. Je sais que c'est une belle journée, mais néanmoins, avec un peu de grisaille près des côtes de la Manche.
Voilà, surtout ce matin, principalement d'ailleurs, avec grisaille et brouillard qui vont se disloquer dans la matinée. Il restera des nuages sur la moitié nord cet après-midi, mais avec beaucoup de soleil, hein, c'est lui qui remporte la palme aujourd'hui. Attendez-vous donc à une belle journée avec des températures fraîches ce matin. Très douce cet après-midi, 14 à 21 degrés du nord au sud. Il en fera 18 à Paris. Demain également, très belle journée. Puis dimanche, ça va commencer à se gâter avec une perturbation qui va arriver sur la moitié nord qui va apporter des averses et les températures vont commencer à baisser.
Merci Céline Evaroc.
Débute aujourd'hui à Lyon, Quai du Polar. C'est un grand festival qui met à l'honneur les polars français et étrangers. À cette occasion, depuis ce matin, 5h, on vous demande sur Twitter avec le hashtag Europe 1 si vous aimez ce genre littéraire, si vous en lisez beaucoup. Alors on a eu beaucoup, beaucoup de messages comme Sandra qui nous dit « J'ai toujours un polar sur ma table de chevet. Je suis les conseils de la Galerne, c'est une formidable librairie indépendante du Havre et je me délecte en ce moment de Maman à tort, c'est un des romans de Michel Bussy. Sophie, elle me dit je ne lis que ça, que des thrillers et des livres policiers, Maxime Chattam, Olivier Norek, Franck Tillièze, Claire Favon, Agatha Christie, 100% frissons et plaisir, nous dit-elle. Et puis Mika, lui aussi, il lit beaucoup de polars et nous conseille Charcot de Franck Tillier et L'Outsider de Stephen King. Merci, vous pouvez continuer à réagir sur Twitter.
Et merci surtout à Mika qui prend le temps entre deux écriteurs de chansons
tous les
de
matins,
nous
vous
envoyer
avez
un petit message,
celle-là,
c'est vraiment sympathique. Ouais. Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Voici les amis, Jérôme Lacroix pour le Journal des Sports, dont on espère qu'il fera ce matin une large part à l'incident sportif de la semaine. La crampe suivie d'une quasi-noyade dont a été victime la championne Eva Roque hier à la piscine municipale du 9e arrondissement. Tout ça est vrai, tout est allé très vite. Eva fanfaronnait sur le plongeoir expliquant au maître nageur inquiet.
Je ne peux pas être comparée à Marie-Josée Perret, qu'on n'était pas dans la même catégorie.
Puis le saut, le plat, la crampe et Eva qui appelle au secours pendant qu'au bord de la piscine, Céline Dacosta perfide se moque d'elle en chantant
« C'est la baleine qui tourne l'hiver. »
Ce qui franchement est dégueulasse. Vraiment, on a hâte d'entendre ce journal des sports. À la une, Jérôme, le grand show de la NBA à Paris.
Mais je vous déteste.
Et moi, je vous aime.
C'est ça l'ambiance NBA. On est au Madison Square Garden de New York. Atmosphère que les fans français qui n'ont pas la possibilité de traverser l'Atlantique espèrent retrouver le 24 janvier 2020. Parce que pour la première fois de l'histoire, eh bien, une rencontre de saison régulière de NBA va être délocalisée. À Paris, ce sera l'affiche entre les Serres et les Frelons, les Bucks de Milwaukee et les Hornets de Charlotte. Comme ça, on va bien pouvoir se moquer de mon accent anglais.
Les Hornets
de Charlotte, où jouent actuellement Tony Parker et Nicolas Batum. C'est aussi la franchise dont Michael Jordan est propriétaire. Un ancien star a joué un rôle majeur. Ça se passera à Paris-Bercy, mais ce sera bien plus qu'un match s'enthousiasme. George Eddy, voix emblématique du basket en France.
Ça va faire la promotion de ce sport qui tarde à rejoindre le foot ou peut-être le rugby et le cyclisme en France. Le match, ça va être l'événement. Mais avant, il y aura une semaine de basket un peu partout dans Paris, dans un partenariat avec la mairie, où les jeunes pourraient découvrir ce sport dans des très bonnes conditions.
Et Milwaukee qui a gagné cette nuit contre Los Angeles Clippers 128-18. Charlotte ne jouait pas. Alors comment obtenir un billet pour le match à Paris? Il n'y a pas de billetterie et ouverte pour l'instant, mais vous pouvez déjà pré-réserver sans garantie d'obtenir le sésame via le site nbaevents.com. Prix minimum, selon le journal L'Équipe ce matin, rien d'officiel, aux alentours de 60 euros. Le basket ce matin, c'est aussi un grand bravo aux filles de Montpellier en finale de l'Eurocoupe, la deuxième Coupe d'Europe de la hiérarchie. Elles ont tiré dans les roues, écrasé les Espagnols de Gérone en demi-finale retour. 98-69, elles affronteront en finale les Russes d'Orenbourg les 3 et 10 avril.
Le tennis, Jérôme, et le grand écart des âges à Miami.
18 ans l'écart entre les deux joueurs qui se disputeront la nuit prochaine une place en finale. À ma gauche, Roger Federer, suisse, 37 ans. Facile tombeur cette nuit du sud-africain Anderson. À ma droite, Denis Shapovalov, canadien, 19 ans, qui a lui battu l'américain Tiafoe. Le retour de la Ligue 1 de football après deux semaines de pause. Rennes 8e reçoit Lyon, 3e en levée de rideau de la 30e journée, coup d'envoi 20h45.
Ce sera l'un des temps forts du week-end sport, la Coupe d'Europe de rugby.
Les quarts de finale, les deux clubs français qui s'affrontent, Racing 92 Toulouse, c'est dimanche à 16h15, l'un des entraîneurs du Racing qui s'est exprimé hier sur les déboires du 15 de France et surtout sur qui placer à sa tête. On en parlait hier, pourquoi pas un sélectionneur étranger, ce serait une première. Mais ce n'est pas la question centrale pour Laurent Labitte. Les compétences, dit-il, existent en France comme à l'étranger.
À part Harry Potter, je ne vois pas qui pourrait révolutionner le rugby français. Ce n'est pas simplement le nom qu'il faut trouver. trouver, c'est surtout les moyens et la façon de travailler. Il faut s'intéresser à tout le monde, et ça, c'est un travail de fond qu'il faut effectuer toutes les semaines et tous les week-ends.
Des propos recueillis par Marie Guida.
On termine, Jérôme, avec l'histoire du jour.
On parle beaucoup des chants à caractère homophobe dans les stades. Faut-il les sanctionner ? La Ligue française de rugby annonce en tout cas saisir le procureur de la République contre les supporters de Bayonne accusés sur une vidéo récemment tournée d'avoir proféré des chants homophobes envers le président du club rival de Biarritz. Ce dernier a d'ailleurs porté plainte.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Et Jérôme, c'est un moment que vous adorez avec un historien virevoltant, capable de bondir d'un sujet à l'autre, brassant les personnages, les époques avec une maestra épatante. Alors oui, parfois on n'y comprend rien, mais c'est beau quand même.
La ville de Doha et ses environs sont attaqués par le Bahreïn. Avec Achille, Paris, Hector, Anwar El Sadat, le président égyptien va tout risquer et lance l'un des premiers journaux du Parti communiste qui débouche sur un corridor qui rappelle le retour du 10. Chinois, en France, la lumière rouge en changeant de stratégie. Puis une porte, dont ils étaient une province.
Vite, envoyez Fabrice Dalméda.
Europe 1.
Je vous ai compris.
Ich bin ein Berliner.
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille.
C'est historique.
Bonjour Fabrice Dalméda.
Bonjour.
Aujourd'hui, un sujet, un seul. Ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, nous passons à l'heure d'été. Mais quand cette pratique a-t-elle débuté ?
Ben, notre changement d'heure a été imposé par le président Valéry Giscard d'Estaing en 1976. La France était frappée de plein fouet par la crise. Le premier choc pétrolier en 1973 avait fait bondir notre déficit commercial. L'Agence pour les économies d'énergie, tout juste créée en 1974, mobilisait donc la population pour la chasse au gaspille. Elle avait commandé un spot publicitaire dont vous vous souviendrez sans doute. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Avec l'heure d'été, on dépenserait moins en éclairage et en chauffage. On l'adopta.
Ah, mais cette idée n'était pas toute jeune.
Mais non, en fait, déjà 60 ans plus tôt, en 1916, le député André Honorat avait déposé une proposition pour le changement de l'heure d'été. Ce Parisien de naissance, élu des Basses-Alpes, soucieux de la ville et poilu, voulait réduire les dépenses d'éclairage au gaz de la France en guerre. Et comme l'Allemagne et l'Angleterre l'avaient aussi fait, il a convaincu ses collègues d'appliquer l'heure d'été dès 1917.
Et ça a duré ?
Ben, jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais avec une particularité entre 1944 et 1945. La France occupée a été contrainte de se mettre à l'heure allemande. Elle a donc ajouté une heure en plus au fuseau horaire. En clair, après juin 40, l'été c'était deux heures en plus par rapport à l'heure solaire qui existait depuis 1826. Donc, on a gardé l'heure allemande en 1945, pour être en phase avec la plus grande partie du continent européen. Mais on a supprimé l'heure d'été, donc une heure en moins. Et on l'a rétablie donc en 1976.
Il faut vraiment
Je fais
suivre,
pas exprès, hein. C'est juste pour vous taquiner. Donc en 1976, on retrouve deux heures en plus, vous l'avez compris.
Bien
et
sûr.
On a généralisé ce même système à toute l'Europe en 1998. Le vote du Parlement européen le 26 mars 2019 propose donc un nouvel abandon du changement d'heure d'ici 2021, ce que les peuples souhaitent pour la plupart. Mais une question demeure.
Ah.
Heure d'été
et heure d'hiver.
Ce sera ça le changement historique.
Merci beaucoup Fabrice Dalméda, l'histoire à la rescousse de l'actualité. On vous retrouve lundi peu avant 6h15.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Debout les copains, continue deux heures d'actu et d'invités qui la font. Et justement, vous aimez vibrer, vous aimez trembler, vous aimez vous faire peur.
J'ai failli mourir.
Arrête.
Mais non.
Non, non.
Mieux que Debout les copains, un bon polar. C'est actuellement le festival Quai du Polar à Lyon, l'occasion d'accueillir Caroline Ripoll, éditrice de romans policiers et thrillers chez Albin Michel. Qu'est-ce qui fait un bon roman noir ? Lesquels vont vous obséder sur la plage cet été ? Réponse dans quelques instants.
Bon réveil à tous, il est 6h18. Il est 6h20, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Jean-Marc Reiser continue de nier son implication dans la disparition de l'étudiante Sophie Le Tan, mais des traces d'ADN de la jeune femme ont été retrouvées sous forme de sang sur le manche d'une scie dans la cave du principal suspect. Le tribunal de commerce de Nanterre doit rendre aujourd'hui sa décision sur l'avenir d'Arjo Wiggins. Les papeteries, trois usines ont été placées en redressement judiciaire. Enfin, nouvelle alerte sur le réchauffement climatique. Les océans ont atteint des records de chaleur l'année dernière, annonce l'ONU.
Europe 1, 5h, 7h.
Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce vendredi 29 mars. Et l'actualité, c'est aussi l'ouverture aujourd'hui à Lyon du 15e festival Quai du Polar, le plus grand rendez-vous consacré aux romans policiers de France. 150 invités sont attendus cette année, notamment Brian De Palma et Roberto Saviano, excusez du peu. Bonjour Caroline Ripoll.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes éditrice de romans policiers chez Albin Michel. En France, un livre vendu sur quatre est un polar en version poche. Il y a ce terme anglo-saxon de page-turner pour décrire un roman qu'on ne peut pas s'arrêter de lire. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le genre du polar reste le plus propice au page-turner ?
Disons que c'est le genre du polar, et je pense celui qui aujourd'hui, dans lequel on retrouve vraiment ce qu'est le romanesque, avec une grande histoire, des personnages, une intrigue, et puis maintenant aussi il y a des sujets de société, c'est très fort, et c'est peut-être que la littérature générale l'a peut-être un peu délaissé au profit d'une littérature plus intimiste, et donc voilà, oui, effectivement, je pense que c'est l'un des genres où on retrouve le plus... cet aspect page-turner.
Intuitivement, je me dis qu'il y a deux choses qui font le succès du polar, on vient un peu de le dire, c'est-à-dire le fait qu'il y a comme un contrat entre le lecteur et on sait ce qu'on va trouver dans un polar, en partie en tout cas, oui. Une mécanique, une enquête, on sait un peu ce qu'on va trouver, et en plus le polar c'est modernisé en embrassant des sujets de société, comme vous dites, en se diversifiant finalement, en se densifiant.
En fait, le polar a souvent, quand même, beaucoup, toujours traité de sujets d'actualité.
C'est pas nouveau.
Le roman noir a quand même été un miroir de la société pendant, enfin voilà, depuis toujours. Donc c'est pas complètement étonnant. Et puis après, il y a l'événement aussi, enfin le phénomène des séries télé, qui, je pense, il y a quelque chose de très addictif dedans qu'on va retrouver dans le roman policier.
Vous voulez dire que les auteurs écrivent comme s'ils écrivaient une série télé ? Ils écrivent en pensant à la série télé qui pourrait donner leur polar ?
Non, je pense pas. C'est pas ça forcément. Mais en revanche, on est un peu dans le même rythme et je pense que, après, je ne sais pas qu'est-ce qui cannibalise l'autre, mais l'addiction que les gens peuvent avoir sur les séries télé et l'ampleur que ça a pris, est-ce que, voilà, on peut se poser la question de savoir si, du coup, par rapport au genre policier, ça n'a pas développé aussi un désir de sensation, enfin voilà, de...
Oui, il y a un lien entre les... On le sait, parce qu'il y a de plus en plus de séries télé qui adaptent des romans.
Complètement.
C'est vraiment un lien très étroit entre les deux univers.
Dans un roman policier, la fin d'un chapitre, il y a souvent une découverte ou quelque chose d'intrigant. C'est ce qu'on appelle le cliffhanger en écriture de séries télé. Et on retrouve les mêmes mécanismes. Aujourd'hui, Quai du Polar met cette année à l'honneur le roman noir scandinave. Alors, depuis la trilogie célébrissime Millennium en 2005, les polars scandinaves rencontrent un grand succès auprès des lecteurs français. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, ces romans noirs venus du Nord ?
Alors, pour tout vous dire, on était avec quelques conseillers, on se posait la question en se disant, mais en fait, pourquoi exactement ? Je pense que la réponse...
Ah, vous êtes pas convaincu de...
Si, c'est évident. Mais pour quelle raison ? Plus celui-ci qu'un autre, pourquoi ça a démarré plus... pourquoi ça a explosé à un moment donné plus que d'autres pays ? Peut-être parce que ça mettait des personnages qui étaient très singuliers. Il y avait un personnage féminin qui était très fort, très différente, qui était aqueuse, qui répondait à un certain nombre de sujets qu'on voyait pas, d'héroïnes qu'on voyait pas jusqu'à présent. Et puis après, le regard de la société scandinave, la manière de traiter et d'écrire un certain temps d'écriture qui est différent, qui peut être différent en fonction des romans scandinaves. Donc voilà. Après, je ne suis pas sûre qu'on arrivera, et peut-être que Quai du Polar avec les invités à l'honneur nous permettront de savoir exactement, mais là, je ne suis pas sûre qu'on arrive à savoir pourquoi, quelle est la recette, s'ils ont une recette.
Il y a des recettes du polar français ?
Est-ce que le polar français marche bien, tout simplement, par rapport au polar scandinave ? Est-ce qu'on s'exporte, nous ?
On peut s'exporter, c'était il y a 3-4 ans, je crois que c'était El País qui titrait après le polar scandinave, le polar français. Alors, est-ce que ça a duré autant qu'à cette époque-là ? Est-ce que c'est qu'en Espagne ? Je ne sais pas. Effectivement, ça s'exporte plutôt bien. Pas tout, mais quand même à l'étranger, ça c'est plutôt vendu.
C'est qui les grands auteurs de polar français aujourd'hui ? Si on veut se lancer, qu'on ne connaît pas grand-chose au roman noir et qu'on a lu Millennium et qu'on se dit j'aimerais bien lire un polar français, qu'est-ce qu'on fait ? Fred Vargas ? Je ne sais pas, moi j'ai lu Fred Vargas par exemple récemment, je trouvais que c'était bien.
Oui, Fred Vargas, ça reste une valeur sûre quand même dans le genre. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des auteurs comme Bernard Minier, il y a Granger, un petit nouveau qui est là depuis longtemps, mais qui reste quand même une figure en fait, quand même du thriller. Et puis c'est vrai qu'il reste tout à fait singulier. Voilà, il se renouvelle quand même à chaque fois. Après, il y a Fontillez, voilà. Et après, il y a le roman noir qui est quand même différent du thriller. Là, on est plutôt dans le thriller.
C'est quoi la différence roman noir-thriller ?
Alors, le thriller fonctionne plus sur une mécanique. Où le scénario, on va dire, a peut-être plus d'importance que le fond. Le roman noir, le fond et le propos prend peut-être plus le pas, même si les deux en fait sont ont quelque chose d'assez addictif dans le dans la lecture. Enfin, le roman noir va être quand même plus d'atmosphère souvent, et puis plus social en fait. C'est vraiment un roman social.
Quels sont vos coups de cœur du moment ? Chez Albin Michel, par exemple, petite maison d'édition que vous connaissez, je crois.
Chez Albin Michel, là, j'ai il y a Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier, qui est un roman noir social, justement, un peu rural, qui se passe au début du siècle précédent, à la fermeture de bagnes pour enfants, enfin, de maisons d'éducation surveillées, qui ont eu, qui avaient sur le territoire français. Et c'est un roman qui est très beau, très fort, enfin, moi qui m'a subjugué quand je l'ai eu dans les mains, je l'ai refermé, j'ai appelé l'auteur tout de suite en lui disant voilà.
On rappelle, c'est pas pour faire de la pub pour votre maison d'édition, mais quand même un peu Les Mal-Aimés de Jean-Christophe Tixier, ça peut être une bonne idée de lecture pour les vacances prochaines. Merci beaucoup Caroline Ripoll d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes éditrice de romans policiers chez Albin Michel. Le festival Quai des Polars se tient à Lyon à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche soir. C'est gratuit, je crois.
C'est gratuit. Il y a plein de rencontres avec tous les auteurs, des séances de dédicaces. Allez-y.
D'autant plus.
Europe 1. Mais il est 6h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue sur Europe 1 avant de retrouver le journal de 6h30 du magnétique David Doucan. La météo avec du soleil quasiment pour tout le monde.
Il est 6h28, Mathieu Noël.
Céline, nous faisons un point sur la météo du jour avec de bonnes nouvelles, car c'est une belle journée.
Oui, dans l'ensemble, beaucoup de soleil pour tout le monde. Petit bémol, comme depuis le début de la semaine, près des côtes de la Manche ce matin, où la grisaille persiste, avec même quelques brouillards. Partout ailleurs, ce sera du ciel bleu, du soleil. On aura juste un petit peu plus de neige sur la moitié nord cet après-midi. Et puis un petit point sur le vent. Le vent de nord s'est calmé. La douceur est revenue déjà hier après-midi. Elle le sera d'autant plus cet après-midi. On a juste du vent d'OTAN qui souffle déjà bien ce matin, qui va se renforcer cet après-midi sur les toulousaine, un peu de vent aussi près de la Méditerranée.
Douceur aussi côté température.
Oui, je me disais, c'est vrai. Hein. 5 degrés au-dessus des normales de saison, 14 à Brest pour la plus basse. Il en fera 15 au Havre, 17 à Orléans, 18 à Paris, 19 à Perpignan, 20 degrés à Tarbes et 21 pour Clermont-Ferrand et Biarritz. Ce matin, en revanche, c'est encore un petit peu frais. 2 à 9 degrés en moyenne. Il en fait quand même déjà 10 à Nice.
Merci beaucoup Céline.
Europe 1. 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures d'infos et de bonne humeur, mélange des genres, oui, mais qui ne vire jamais au Café du Commerce. On peut pour cela compter sur la rigueur journalistique de Céline Dacosta.
Même de Rabiot, c'est sa mère.
Et de son acolyte, la célèbre Eva Rock.
C'est bon le bélaise,
avec des glaçons.
À suivre, politique, économie, médias, les trois fantastiques arrivent. Et justement, ce matin, Mickaël Darmon nous parlera du nouveau pari de la droite française, le pari des intellos. C'est toujours payant de miser sur des intellectuels. J'aurais d'ailleurs à ce propos encore quelques sons d'Eva et Céline à vous faire écouter, mais on me fait signe qu'on est en retard.
Oh, ça va. Hein, on a qu'à dire à Doucan qu'il fasse plus court.
Non, excusez-la, David, elle ne sait pas ce qu'elle dit.
Ah, oui.
Vous écoutez Europe 1, il est 6h30. Mathieu Noël.
Le journal de 6h30 présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Sommes-nous face à un nouveau scandale sanitaire ? Les enfants de la petite commune de Sainte-Pazanne, près de Nantes, développent des cancers deux fois plus que dans le reste du pays. Que se passe-t-il ? Qui est responsable ? Enquête et information Europe 1 dès le début de ce journal. La campagne des européennes de mai prochain n'a même pas encore commencé que la Macronie se focalise sur une autre élection, la municipale de 2020 à Paris. Benjamin Griveaux a officialisé sa candidature hier soir. Et nous irons à Alger. Le peuple, qui a déjà obtenu pas mal de choses, n'a pas l'intention de relâcher la pression. Dans un instant, reportage de notre envoyé spécial avec les manifestants qui préparent un nouveau vendredi de protestation.
Europe 1.
Que se passe-t-il à Sainte-Pazanne, près de Nantes ? Dans cette commune de 6500 habitants, 9 enfants et adolescents ont développé un cancer ces 4 dernières années. 3 d'entre eux ont été emportés par la maladie. C'est bien sûr tout à fait anormal par rapport à la moyenne nationale. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a mené une première enquête en 2017 qui a échoué à trouver un facteur environnemental. Naturellement, les parents sont très inquiets et attendent une réaction des pouvoirs publics. Enquête et information Europe 1, signé François Coulon.
Alban a déclaré une leucémie à l'âge de 4 ans en décembre 2015. Il a été la première petite victime de Sainte-Pazanne, trop vite rattrapée par 3 autres enfants en un an. C'est sa maman, Marie, qui a alerté l'ARS des Pays de la Loire.
Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Et puis en fait, il y a eu d'autres enfants. Jusqu'à un petit copain d'Alban, fin février, on en est à 9. Complètement incroyable. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Une majorité ont des leucémies et lymphomes, et puis il y a aussi d'autres cancers. Il y en a 3 qui sont décédés. C'est horrible. Qu'est-ce qui fait qu'autant d'enfants tombent malades ? Je suis convaincue aujourd'hui que c'est multifactoriel. On est en zone radon, par exemple, à Sainte-Pazanne. C'est un gaz qui peut entraîner des risques cancérogènes. Il existe depuis toujours. Peut-être qu'il a augmenté. Il faut venir au moins retester.
Quelle est votre requête en urgence?
Que les médecins soient formés en urgence sur tous ces éléments de cancer pédiatrique. Un cancer pédiatrique, c'est très rapide. On peut partir très vite si ça n'est pas décelé. Bon, ça se joue en quelques semaines. L'importance de la formation de nos médecins est capitale.
D'après nos calculs, on recense à Sainte-Pazanne deux fois plus de cancers pédiatriques que la moyenne nationale. Beaucoup de parents très inquiets s'interrogent. Pas de site Céveso dans ce secteur essentiellement agricole orienté sur l'élevage. À ce stade, l'ARS n'a pas pu mettre en avant un facteur environnemental. Le mystère reste entier. Sainte-Pazanne, François Coulon, Europe.
L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a déclenché une nouvelle enquête pour essayer de percer ce mystère. Une réunion d'information pour les habitants sera organisée prochainement avec la mairie de Sainte-Pazanne. Libéré, il a officialisé sa candidature à la mairie de Paris. Benjamin Griveaux a choisi pour cela un café de la place de la République. Son premier discours de candidat s'est adressé entre autres à ses rivaux au sein même de son parti, et il y en a beaucoup. L'ancien porte-parole du gouvernement a choisi le costume du rassembleur. On l'écoute.
On a beaucoup de talents. On a Cédric Villani, qui est un immense mathématicien et qui est un des experts mondiaux les plus reconnus sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on va se passer de ce talent pour bâtir à Paris un projet où l'intelligence artificielle peut régler les problèmes du quotidien du Parisien? Est-ce qu'on va se passer du talent de Mounir qui, lorsqu'il était secrétaire d'État chargé du numérique, a démontré la connaissance qu'il a du secteur dans une ville où l'écosystème numérique parisien est très présent? Très franchement, on serait fous alliés. Et donc, qu'il ne compte pas sur nous pour reproduire les erreurs que tous les autres partis ont fait avant nous, à savoir se désunir, se discuter sans doute pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons de personne. Il y aura un choix qui interviendra. Et une fois que le choix sera intervenu, chacun soutiendra le candidat ou la candidate qui sera retenue.
Benjamin Griveaux, micro de Virginie Riva. Qui a tué Patricia Bouchon? Cette femme de 49 ans faisait son jogging le 14 février 2011, date de sa disparition. Son corps était retrouvé un mois et demi plus tard, dissimulé dans une conduite d'eau, le crâne enfoncé. Depuis 11 jours, le procès du principal suspect, Laurent Dejean, l'avocat général a requis hier l'acquittement en raison du manque de preuves. Les jurés de la cour d'assises de Haute-Garonne se retireront aujourd'hui pour délibérer après avoir entendu une dernière fois l'accusé. Dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg, l'étau se resserre autour de l'unique suspect. L'ADN de la jeune femme a été retrouvé sur une scie appartenant à Jean-Marc Reiser, qui a malgré tout clamé son innocence hier face à la juge d'instruction. Le peuple algérien n'a pas l'intention de quitter la rue. Nouveau vendredi de mobilisation aujourd'hui, le premier après l'initiative du chef d'état-major des armées en faveur d'un départ d'Abdelaziz Bouteflika. Des cortèges à Alger, il y en a tous les jours, avec des slogans et des pancartes qui démontrent la créativité et l'humour des manifestants. Reportage de notre envoyé spécial Mathieu Bock pour Europe.
Une blouse blanche sur les épaules, Sarah tient à bout de bras un morceau de carton sur lequel elle a écrit son message au feutre noir.
Je suis étudiante en médecine. On veut une bouteflérectomie, ça veut dire une ablation totale du système de bouteflera.
Vous êtes étudiante, c'est plus dur de rester que de partir?
En fait, c'est dur de partir et c'est dur de rester. Alors qu'on doit changer tout le système pour qu'on puisse changer notre pays nous-mêmes.
Partout dans les cortèges, des dizaines de slogans fleurissent sur des bouts de tissu ou de simples feuilles en papier. Debout sur le trottoir, Farouk et Mohamed montrent leurs panneaux aux manifestants. Ils ont dessiné les frères Dalton avec ce mot « dégagé ».
Les trois frères...
Dalton, Avrel, Joe... Mais le quatrième, j'ai oublié son nom.
C'est qui les Dalton ici en Algérie?
Les frères de Bouteflika.
Les Dalton, c'est des voleurs. Ce qu'ils désignent, c'est pas les Dalton eux-mêmes, mais l'équipe des voleurs. Tout au grand complet, le peuple algérien a dit aujourd'hui, basta, basta. C'est tout.
Et avant de partir, Farouk nous montre fièrement une autre pancarte qui était posée à ses pieds.
Ici, c'est écrit Hunaka Hallein la Talita Lahuma. Il y a deux solutions. Ou bien vous partez, ou vous partez maintenant.
Alger, Mathieu Bock, Europe 1.
À suivre dans ce journal, l'Union européenne rappelle ses bateaux de sauvetage en Méditerranée, signe d'un changement de politique migratoire. À tout de suite.
Il est 6h36. Il est 6h37, Mathieu Noël.
La suite du journal David Doucan, c'est un symbole et un tournant politique pour l'Union européenne.
Oui, depuis 2015, dans le cadre de l'opération Sophia, elle a frété des bateaux qui sauvaient des migrants au large de la Libye. Désormais, il n'y en aura plus. Isabelle Horry.
C'est vraiment le signe que l'Europe a changé de politique migratoire. L'opération Sophia, c'était la réponse aux appels au secours de l'Italie il y a 4 ans. Les bateaux européens ont sauvé des milliers de vies en Méditerranée. Sophia, c'est d'ailleurs le nom d'un bébé né à bord d'un de ces navires. Quatre ans après, le gouvernement italien a changé et la stratégie aussi. L'opération est suspendue à cause de Matteo Salvini. Rome refuse que les migrants soient débarqués dans des ports italiens. L'Italie voulait que les navires accostent ailleurs en Europe. Les autres États membres ont refusé. Désormais, l'opération se concentrera sur la surveillance aérienne et sur la formation des gardes-côtes libyens. C'est sur eux que reposera à l'avenir la gestion d'éventuels sauvetages en mer. Les passeurs ont déjà compris que la Méditerranée centrale n'était plus une option. Le mois dernier, 60 candidats à l'asile seulement ont choisi cette route. C'est le chiffre le plus bas depuis 9 ans.
Et je vous amène maintenant dans l'agglomération lyonnaise où ça commence à sentir. Voilà 10 jours que les ordures ne sont pas ramassées dans 59 communes de la métropole. Lyon est épargné où le service est assuré par des sociétés privées. Mais ailleurs, les éboueurs municipaux sont en grève pour demander une augmentation de salaire. Un reportage en périphérie de Lyon, Jean-Luc Boujon.
Les sacs poubelles s'amoncellent sur ce trottoir de Pierre-Bénite au sud de Lyon, aligné un peu plus loin. Les bennes à ordures débordent. Voilà 10 jours que la collecte des déchets n'a pas eu lieu et cela commence à sérieusement écœurer les habitants.
C'est ça, ça pue, ça se fait pas.
À force, ça fait un crade.
C'est quand même un peu dégueulasse. On sent l'odeur. Vous allez faire un tour, vous tombez raide, quoi.
C'est pas hygiénique. Du coup, il y a des rats qui commencent à arriver, quoi.
Des rats?
Ouais, ouais. J'en ai trouvé un rat il y a pas longtemps parce que les poubelles n'étaient pas évacuées. C'est dégoûtant, ça fait surtout peur, ouais.
Et la situation est la même dans 58 autres communes de la métropole, toutes sauf Lyon, où le service est assuré par des sociétés privées. C'est pour cela, pour gêner le ramassage des ordures aussi à Lyon, que les éboueurs en grève ont bloqué lundi dernier l'incinérateur de Gerland qui traite en temps normal les déchets des Lyonnais. Des éboueurs en colère qui réclament une substantielle augmentation de salaire, explique Ogba Djalab, leur porte-parole.
Ce qu'on demande, c'est 200 euros. Parce que le métier est pénible et parce que les fonctionnaires n'ont pas été augmentés depuis plus de 10 ans. La surcharge de travail, le tonnage qui ne cesse d'accroître. On veut être écouté, on veut être entendu.
Un mouvement de grève parti de la base qui a complètement pris de court les syndicats. Les éboueurs lyonnais affirment se sentir très proches des gilets jaunes et mettent en avant, eux, leur blouson de travail orange. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et voilà, mon cher Mathieu, pour ce journal qui est terminé.
Ah oui, il m'a dit, je vais rajouter un truc, une chute, tu vas voir. Et voilà pour ce journal, voilà. Oui, tu t'es pas foulé mon coco. Bah merci. Non, voilà, c'était factuel. Le journal de David Doucan. David, oui. Que je considérais jusqu'à présent comme un ami. Mais oui. Je l'avais même invité en week-end chez moi, sans savoir que je faisais entrer le loup dans la bergerie. Car oui, ayant accès aux enregistrements de tous les micros, y compris durant la matinale de Nikos Aliagas, où David assure le journal de 8h, j'ai découvert, estomaqué, l'estime toute relative dans laquelle me tenait celui que j'appellerais désormais Judas Doucan.
Noël, bon, il est un peu connu, mais enfin ça reste quand même quelqu'un qui commence, quoi. Tu vois, il fait le 5-7. Nikos Aliagas. Et donc ça impressionne, alors que Noël, on a envie de le chambrer assez facilement, quoi. Il impressionne pas, attention.
Passez votre chemin, Judas. Je vous tourne le dos et je regarde Céline Dacosta.
Non mais attendez, Mathieu.
Non,
vous irez voir Nikos Aliagas.
Mais non, Mathieu, il faut que vous regardiez la réalité en face. Parfois, il faut savoir.
Il leur met une couche.
Mathieu, mais enfin, soyez. Il faut.
Vous allez vous faire virer Doucan.
Mais non, mais ne vous fourvoyez pas. Il a.
Mais vous avez quel type de contrat avec Europe 1, David Doucan? Je vais m'enseigner.
La porte est juste là. La porte derrière.
Céline Dacosta.
C'est marrant.
Céline Dacosta. Quel temps?
Il est dans le déni. Mathieu Noël. Enfin, vous ne pouvez pas comparer votre notoriété avec celle de Nikos Aliagas.
Je ne compare pas la notoriété, je compare ce que vous dites sur moi.
Votre fidélité.
Vous êtes censé être mon ami et vous me devez fidélité.
Écoutez, je vous laisse.
Écoutez plutôt Céline Dacosta. Écoutez le beau temps qu'elle nous a préparé pour
faites
ce week-end.
Faites quelque chose que vous ne faites jamais, écoutez-moi.
Oui, avec plaisir, ma chère Céline.
Du soleil toute la journée avec un petit bémol près des côtes de la Manche ce matin où on a pas mal de grisailles. Puis on va faire court puisque vous avez mangé tout mon temps de parole. Il va faire beau aujourd'hui et les températures seront très douces cet après-midi de 14 à 21 degrés du nord au sud.
Et donc voilà, nous dit Doucan, décidément.
Ouais, c'est pas la peine
sans gêne.
Plus,
merci Céline Dacosta.
Europe 1, allez, à lundi. 5h, 7h, Mathieu Noël.
À suivre. Politique, économie, médias, les trois fantastiques vous décryptent l'actu avec leur faconde et leur éloquence légendaire.
Pourquoi faire simple quand on peut. Voilà.
Au sommaire notamment ce matin, Bellamy, Retailleau ou quand la droite mise sur les intellos.
Bon réveil, il est 6h42.
Europe 1.
Il est 6h43, l'essentiel de l'actualité, Mathieu Noël.
Benjamin Griveaux a officialisé sa candidature hier soir à Paris en vue des municipales de 2020. La pré-campagne est lancée au sein de La République En Marche, qui désignera son candidat en juin. En plus de l'ancien porte-parole, sont sur les rangs Mounir Majoubi, Cédric Villani et Hugues Rançon. En Algérie, le peuple n'a pas l'intention de quitter la rue. Nouveau vendredi de mobilisation aujourd'hui, le premier après l'initiative du chef d'état-major des armées en faveur d'un départ d'Abdelaziz Bouteflika. Enfin, dans l'affaire de la disparition de Sophie Le Tan à Strasbourg, l'étau se resserre autour de l'unique suspect. La L'ADN de la jeune femme a été retrouvé sur une scie appartenant à Jean-Marc Reiser, qui a malgré tout clamé son innocence hier face à la juge d'instruction.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
C'est probablement le moment le plus excitant et le plus attendu de notre matinale.
Et là, à ce moment-là, Larousseau arrive.
Mais non !
Et c'est une hystérie.
Non, non, les trois fantastiques arrivent et c'est l'hystérie aussi. Eva Rock pour les médias, Mickaël Darmon pour la politique, Axel de Tarlé pour l'économie. Et dans un monde où les experts, les sachants sont souvent pointés du doigt, je pose une question pour démontrer leur utilité. À quoi ressemblerait l'édito économique si au lieu de le confier à un spécialiste éco, on le confiait à une spécialiste météo? Ah, c'est sûr, le problème du chômage serait expédié plus vite.
Paf, vous formez, paf, vous changez de métier, changez de vie.
Mais bon, voilà, c'est QFD, hein. Les experts ont du bon parfois. Et on commence par notre expert politique. Paf, Mickaël Darmon. En ce début de campagne des élections européennes, la droite, les Républicains, le reprend des couleurs et un peu de vigueur. Les sondages créditent la liste Les Républicains de 13% des voix, soit une hausse de 3 points pour la liste menée par François-Xavier Bellamy, jeune philosophe qui perturbe le jeu politique.
Et qu'on se le dise, à droite, une résolution, une bonne a été prise. Arrêtez d'être la droite la plus bête du monde. Fini la recherche éperdue de l'homme providentiel pour revenir au pouvoir. Bienvenue à la démarche intellectuelle et à la bataille des idées. Donc exit, la lutte des places. À droite, on veut y croire. Elle n'a pas inventé le pétrole à droite, mais elle aura des idées. Et celui qui incarne cette révolution, eh bien c'est François-Xavier Bellamy, tête de liste, tête bien faite. 33 ans, philosophe, adjoint au maire de Versailles, auteur d'un essai « Demeure », réflexion sur le mouvement perpétuel de notre époque. Il est un conservateur assumé et il dit « Le changement, c'est un mouvement entre deux périodes de stabilité. Et être en marche pour être en marche, tout simplement, cela mène au chaos. » Bellamy est persuadé que la droite ne peut pas se contenter de réclamer en boucle les moins d'impôts et moins de prélèvements obligatoire, c'est l'assurance absolue de rester au fond du trou électoral. Et voilà que ça fonctionne. Conclusion, le jeune Bellamy commence un petit peu à agacer ceux qui ne voyaient en lui qu'un aimable jeune prof de philo inoffensif.
Parce que d'autres que lui ont compris que le renouvellement des idées est indispensable à droite.
Ah, il faut savoir, effectivement, d'abord que le parti LR a créé un lieu de réflexion qui s'appelle le Carrefour des idées, animé par Guillaume Larrivé, auteur d'un essai contre le macronisme. Mais voilà que depuis quelques jours, c'est Bruno Retailleau, président des sénateurs LR et de Force Républicaine, le micro-parti filloniste, qui est arrivé en librairie avec Refondation. Se refonder ou s'effacer, dit Retailleau, persuadé que la droite peut disparaître car elle n'est toujours pas ni audible ni crédible. Et il pose là un projet de reconquête présidentielle, alors que Bellamy, l'homme sincère, perturbe le jeu et vient rappeler qu'effectivement le dégagisme est toujours à l'œuvre. D'ailleurs, Laurent Wauquiez commence vraiment à regarder différemment ce jeune philosophe au visage d'enfant de cœur, mais aux yeux de liquidateur politique quand même. Hein. À la une quand même de Dupont cette semaine, après avoir été à la une du JDD. Autour de Laurent Wauquiez, on commence à dire, dites chef, il n'y aurait pas comme un problème avec le candidat, parce qu'effectivement, on commence à se dire que Bellamy, l'intellectuel qui veut réveiller la droite, a certainement de la suite dans les idées.
Et vous retrouvez toutes les références citées dans cette chronique sur le site europe1.fr. Merci Mickaël Darmon. On passe à l'économie avec vous, Axel de Tarlé, avec plutôt une mauvaise nouvelle. Une personne sur 10 connaîtrait des difficultés de logement.
Voilà, c'est une note de l'INSEE on voit bien là les conséquences de l'envolée des prix immobiliers dans les grandes villes. Donc, une personne sur 10 connaît des difficultés de logement de manière durable, nous dit l'INSEE, et plus d'une sur quatre, donc 28% exactement, connaît des difficultés de logement de manière ponctuelle.
Mais qu'est-ce qu'on entend par difficulté de logement, Axel ?
Alors, ce qui est bien avec l'INSEE, c'est que tout est précisé, c'est carré, et donc vous avez la définition des difficultés de logement. Un individu est considéré comme ayant des difficultés de logement s'il connaît au moins deux difficultés parmi les neuf suivantes. Alors, je vais vous les citer. Faites attention parce qu'on va peut-être se reconnaître. Alors, le début, c'est facile. Alors, absence d'eau courante, absence de salle de bain, de toilette, de chauffage, etc. Mais ensuite, il faut en avoir que deux sur les neuf. Logement trop bruyant, logement trop difficile ou trop coûteux à chauffer, logement considéré comme trop petit par rapport au nombre d'occupants. Alors, ça veut dire quoi? Alors là, il y a une deuxième définition. Eh bien, par exemple, selon l'INSEE, un logement correct, il faut qu'il y ait au moins une chambre pour les adultes référents, une pièce pour les autres personnes, adultes. Mais par exemple, pour les enfants, il faut une pièce pour deux enfants s'ils sont de même sexe ou s'ils ont moins de 7 ans. C'est-à-dire que si vous avez une petite fille de 8 ans, elle ne peut pas être avec son petit frère. Pour l'INSEE, là, c'est une difficulté de logement. Il faudrait, dans ces cas-là, avoir deux chambres. Bref, tout
oui,
cela...
Oui, c'est des critères objectifs, en fait, pour pouvoir faire un classement, enfin, j'imagine, pour
voilà.
Pouvoir établir...
Et on en parle ce matin, et l'INSEE fait une note dessus. Et cela montre que l'une des préoccupations numéro un, mais très importante maintenant des ménages, notamment des jeunes ménages qui s'installent dans les grandes villes, c'est le logement qui est la clé qui vous mange le pouvoir d'achat. Je rappelle les hausses des prix dans les grandes villes au cours des 10 dernières années. Bordeaux, plus 59%. Je veux dire, les loyers, les salaires en 10 ans n'ont pas progressé.
Ça, c'est sûr. 9%.
Paris, plus 49%. Lyon, plus 36%. Nantes, plus 16%, etc.
Et voilà. On est impuissant face à cette envolée des prix de l'immobilier, Axel ?
Eh bien, ça devient la préoccupation numéro 1. Le gouvernement n'y arrive pas. Alors, il y a les histoires de bloquer les loyers, ça ne marche pas. Il y a une proposition qu'a fait...
Attendez, on s'arrête un instant là-dessus. Bloquer les loyers, c'est pas possible. Ça avait été fait à Paris à un moment, c'est la loi a été détricotée.
Vous trouvez qu'à Paris, les loyers baissent ?
Non, mais c'est pas ça. Il y avait eu la loi Allure, elle a été enlevée. Concernant le plafonnement des loyers.
On pouvait les bloquer à Paris, mais alors on ne les bloquait pas dans les communes limitrophes, donc ça posait un problème d'égalité. Non, Alain Dinin, hier, le patron du promoteur Nexity, a une proposition originale dans Capital. Il dit, vous savez ce qui coûte cher dans les zones tendues, c'est le terrain. Et le terrain, il appartient à l'État. Écoutez, l'État pourrait peut-être un peu bloquer, ça représente 25% du coût d'un logement, le terrain. Il pourrait, essayer de ne pas vendre forcément au prix du marché, il pourrait vendre un peu moins cher pour que les citoyens puissent se loger décemment. Et deux, on pourrait construire plus haut. On a la phobie des tours en France. Bah, regardez les grandes capitales, il y a des tours. Il faudrait peut-être aussi changer notre logiciel et notre acceptation d'une architecture un peu plus dense.
Encore faudrait-il faire des jolies tours, alors.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et oui, mais alors on fait quoi ? On se loge mal ?
Il faut des bons architectes et des bonnes tours. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir ou ce week-end ?
Alors, deux programmes à ne pas manquer ce week-end. Dimanche soir à 20h55, France 5 diffuse un documentaire qui est intitulé La fabrique du mensonge ou comment sont nés et se sont propagés les infox. Vous savez, c'est fake news. Il y aura un sujet notamment sur un vaccin qui est lié à l'autisme, qui est une fake news depuis des années. Une autre sur l'influence des Russes dans les élections présidentielles françaises, qui est extrêmement intéressant. Et il y a aussi un portrait d'Alex Jones, le plus grand pourvoyeur de fausses nouvelles aux États-Unis, que les GAFA ont fini par bannir de la plateforme après l'avoir laissé dire n'importe quoi pendant des années sur YouTube, notamment Twitter et Facebook. Et puis, j'ai eu un coup de cœur pour une fiction programmée sur Arte, c'est ce soir à 20h55. Ça s'appelle Une vie après, avec un duo d'acteurs Émilie Dequesne face à Frédéric Pierrot, des histoires de couple, des histoires d'amour qui tentent de résister à l'épreuve du temps et à la routine. Comme Marion, elle est mariée à Lucas, elle est maman d'un petit garçon, elle va décider de quitter le domicile conjugal. Et puis Dominique, lui, se demande s'il doit rester avec sa femme. Et la rencontre entre ces deux adultes va bouleverser leur quotidien.
C'est mon mari. On va se quitter. Et il ne sait pas encore.
T'es vraiment prête à tout foutre en l'air ? Tu m'as jamais aimé en fait.
C'est pas vrai. C'est nous que j'aime plus.
Vous avez changé ma vie dans cette boîte de nuit.
Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Dom ? Tu t'ennuies à ce point avec moi ?
Pourquoi vous restez ensemble avec maman ? Je vois bien que ça va pas entre vous. Je voudrais être con pour pas s'en rendre compte.
Mon mari va avoir besoin de beaucoup d'alcool car ce soir il doit me baiser. Pour que je continue à espérer, à attendre, après je sais pas quoi. On a le droit d'avoir une deuxième vie. Une vie après ses enfants.
Et paradoxalement, Une vie après, c'est un hymne à l'amour. Émilie Dequesne et Frédéric Pierrot sont extraordinaires. Ils sont portés par des dialogues réussis. Des dialogues dans lesquels, en plus, le silence s'impose aussi et rythme. Tout est subtil, c'est intelligent. Il y a des scènes fortes. Fortes parce qu'elles sont chargées en émotions ou drôles aussi. Fortes aussi parce que, immanquablement, nous nous projetons dans le dessin de ces femmes et de ces hommes. On s'y reconnaît toujours un petit peu. Une fiction teintée de tristesse, mais qui mérite réellement le détour. C'est sur Arte ce soir à 20h55. Et La fabrique du mensonge est sur France 5 dimanche soir à 20h55 aussi.
Merci beaucoup, Eva Rock, pour ses vrais coups de cœur, on l'a senti. Merci Axel de Tarlet, Mickaël Darmon, l'équipe des Trois Fantastiques sera de retour lundi aux alentours de 7h moins le quart.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains s'apprête à passer la main à l'équipe du 7-9 de Nico Saliegas, équipe dans laquelle vous retrouverez Céline Dacosta et Axel de Tarlet, l'infatigable dauphin d'or, aussi en forme entre 7 et 9 qu'entre 5 et 7. Mais comment fait-il ? Son secret ? Le sport.
Toi, c'est quoi ton sport de prédilection ? T'en as pas ?
Le ski. J'aime bien le ski.
Le ski vient ?
Non.
Non, je me force à faire, mais c'est pas du plaisir. Enfin, encore que je me suis fait faire du rameur tous les jours. Et comme je vois que je suis pas très maigre et voilà, je me dis que si j'en faisais pas, je serais très gros.
Ça fait pas mal au dos, un rameur ?
Non, c'est juste chiant.
Le débrief de la matinale de Nico Saliegas à suivre.
Bon réveil à tous, il est 6h53. Il est 6h54, Mathieu Noël.
Dans quelques instants, Debout les copains cédera la place à la matinale de Nico Saliegas. Mais juste avant, il y a cette petite séquence que Nico s'aborde toujours avec fébrilité. Un matin sur deux, il essaie même de détourner mon attention sur un autre sujet.
Mais j'entends des oiseaux.
Non, on ne me la fait pas. Vous savez parfaitement que le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos. Nikos, qui d'ailleurs ne devrait pas être si inquiet ce matin, son bilan d'hier est globalement positif. Il a, comme on dit, fait le job, soutenant Laurent Cabrol dans ses effets, même quand l'effet en question était de comparer un anticyclone à un catcheur qui bouterait hors du ring les cumulus, on va voir ça, réussissant même à simuler l'intérêt pour des sujets où une solide expérience théâtrale était nécessaire.
C'est beaucoup mieux que ça, je suis dans une Navia. La Navia, c'est une navette autonome. Écoutez, il n'y a rien à entendre.
Passionnant.
Ah ouais, c'est dingue. Dans la série, mes amis, dans la série des tics journalistiques à éviter, j'entends Lolo, on rappellera à nos chroniqueurs que l'expression « vous savez que » pour inclure les gens dans l'info, « vous savez que Theresa May a mis sa démission sur la table, vous savez que les taux immobiliers sont au plus bas »
pas sans savoir,
est inutile. Y a celle-là. C'est inutile, surtout lorsqu'il n'y a que vous qui savez ça. Démonstration mercredi avec Vincent Hervouette.
Oui, vous savez, cette semaine commence la mi-carême.
La mi-caouette, c'est
la... La mi-carême.
On s'en fout.
Oui, voilà. Dire qu'avant, je traversais cette période de l'année en me disant bêtement que c'était la fin mars, alors que c'était la mi-carême. Toutes ces années vécues dans l'ignorance. Bref, le doute n'est désormais plus possible. C'est la panique chez Skyrock et Energy avec nos infos trop stylées sur la mi-carême. Europe 1 est en train de redevenir la radio des jeunes.
Ça se passe le ouinge.
Hélène Zélani nous a montré la voie. Mais est-ce qu'on ne va pas trop vite, trop loin? Car, je vous le dis, Nico, Céline, la modernité de votre duo est vertigineuse, parfois même dérangeante.
On vous dit tout juste après une page de pub.
Tout, vous saurez tout après la pub.
Ça va peut-être trop loin, hein, on est qu'en 2019. Hein. Enfin, il est une personne sur cette radio qui transcende toutes les notions de classicisme, de modernité. Quelqu'un qui, depuis 30 ans, fait voler en éclats tous nos repères. Il s'appelle Laurent Cabrol. Et l'histoire se souviendra de lui comme le fondateur de l'école du surréalisme météorologique. Une philosophie qui peut se résumer ainsi. Pourquoi dire qu'un anticyclone repousse la perturbation quand vous pouvez faire une beaucoup plus longue phrase de 19 secondes pour dire la même chose?
Cet anticyclone là qui est là, il agit un peu comme un catcheur qui est sur le ring et puis qui, dès que quelqu'un arrive, hop, il le balance dehors.
Belle image.
Belle image en effet. Bravo Lolo. Et bon courage Nikos pour cette ultime journée de la semaine.
Merci cher ami, merci Mathieu Noël, merci Eva Rock.
Merci Nikos.
Vous êtes trop fort. Quelle plume, quel verbe.
Ne lui dites pas trop.
Et on embrasse Eva Rock qui prend une petite semaine de vacances.
Ah oui, je vous quitte. Voilà.
Vous partez où?
Elle ne veut pas le dire, mais c'est Lanzarote dans les îles Canaries.
On n'a rien dit.
Deuxième indice, un hôtel adulte only. Voilà, il y en a deux, vous avez une chance sur deux.
Une petite recherche Google.
Bah alors reposez-vous bien ma chère Eva Rock. Céline Bacosta, c'est un plaisir de commencer la journée avec vous, toujours.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.